Alors, je souhaite la bienvenue à tous à cette toute première conférence du programme 2006-2007 du groupe de recherche théorique. Et c'est une séance que j'ai envie de dire triplement inaugurale, puisqu'elle ouvre à la fois un cycle de conférences publiques, qu'elle manifeste la fondation d'un nouveau groupe de recherche au sein de l'Université de Paris-Sorbonne, qu'elle ouvre la voie aussi à un partenariat également inédit entre l'École doctorale de littérature française de notre université et le récent Institut de recherche et d'innovation du Centre Georges Pompidou. Alors, je ne vais pas détailler longuement le programme des conférences publiques proprement dites. Vous l'avez sous les yeux. Ce programme sera consacré cette année aux expériences théoriques, ce qui nous conduira à raison d'une conférence par mois jusqu'au 22 mai. Il y sera question de théorie, de critique, des fonctions du théorique comme tel. Il sera question aussi de poésie et de poétique avec Michel Deguy, de musique, de morale et de politique. Bref, des chercheurs viendront nous dire ce qu'il en est pour eux aujourd'hui, depuis leur lieu de recherche, de la réflexion théorique, comme pratique, comme expérience également. Je dirais en revanche quelques mots sur la création du groupe de recherche théorique lui-même. Denis Guénou y reviendra tout à l'heure. Donc, ce groupe a été fondé à l'initiative de Denis Guénou, et il voudrait d'abord rendre manifeste au sein d'une université comme la nôtre, et sans doute ailleurs, de la nécessité d'un espace de débat, d'échange, qui échappe au partage disciplinaire, qui préside logiquement au programme des équipes de recherche, lesquelles se constituent presque nécessairement sur un objet, un genre, une période de l'histoire littéraire pour ce qui concerne les équipes de notre école doctorale. Le groupe de recherche théorique, de son côté, ne se donne pas d'autre objet qu'une réflexion sur la théorie elle-même, sur la dimension spéculative de la pensée théorique, sur son utilité, peut-être aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, qui depuis longtemps préfère les experts aux théoriciens, les commissions aux manifestes et les audits aux spéculations, une société et au-delà sans doute un continent qui, s'agissant d'enseignement, de culture, d'économie, d'éthique, et si j'ose dire tout simplement de politique, a peut-être fait trop durablement le choix des experts contre les théoriciens. La conviction qui nous anime, mais pour l'instant j'en parle en mon nom propre et franchement, et très franchement, c'est qu'on ne pense ou on ne commence à penser vraiment que lorsqu'on prend le risque de se donner deux objets à la fois, lorsque l'on s'aventure hors des limites de son strict champ d'expertise, bref, lorsqu'on se place de soi-même dans la nécessité d'élaborer un dispositif critique, des modèles formels susceptibles de nouer des objets différents. Et Denis Guénou nous en donnera sûrement l'exemple dans un instant, en endossant le maillot du philosophe pour entrer sur le terrain du football, en nouant la question du jeu sportif à celle de l'identité nationale. Pour ce qui est du mode de fonctionnement du groupe, outre le cycle de conférences que Denis Guénou inaugure aujourd'hui, je signale également à tous ceux que l'initiative intéresse l'existence de séances de travail moins publiques, mais néanmoins ouvertes, et qui seront consacrées à la discussion d'ouvrages théoriques ou de numéros de revues récents ou moins récents, à des questions générales de philosophie ou de théorie littéraire, à des débats aussi avec des chercheurs invités. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez les dates de ces séances au dos du document qui vous a été distribué, il vous suffit d'en faire la demande par courrier électronique à l'adresse qui est indiquée. Je précise que l'inscription est bien sûr gratuite. Et le programme de chacune de ces séances sera diffusé aussi sur le site fabula.org qui s'associe aux travaux du groupe de recherche théorie dont il partage la vocation. S'agissant de diffusion encore, je signale que la conférence et puis le débat qui suivra sont enregistrés et que nous espérons pouvoir mettre en ligne les enregistrements audio de ces conférences selon des modalités qui restent encore à préciser. Mais sur le site de l'IRI, donc de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges Pompidou, vous pouvez également découvrir les autres séminaires et initiatives de l'Institut, notamment le programme d'un autre séminaire également animé par Denis Guénou, et qui est consacré à la question du jugement, plus précisément à la différence entre le jugement émanant de la position du spectateur et les jugements qui se forment dans la pratique, dans le jeu théâtral lui-même. Alors je n'ai que trop longuement parlé, mais je m'en voudrais de passer le témoin à Denis Guénaud sans rappeler au moins quelques-uns de ses tout derniers ouvrages, au sein d'une œuvre qui compte déjà plus d'une vingtaine de titres et dont une douzaine de textes de théâtre. Et je crois savoir d'ailleurs qu'une nouvelle pièce sera créée cet hiver. Je rappellerai donc qu'il a publié l'année dernière deux ouvrages, un essai sur Yasmina Reza, intitulé « Avez-vous lu Reza ?» chez Albin Michel, qui est le premier essai sur la vraie nature, et chez Belin, un essai intitulé « Action et acteur, raison du drame sur scène », qu'on peut lire comme la suite, peut-être, de la méditation entreprise dans un précédent ouvrage, devenu en quelques années un classique pour beaucoup d'entre nous et pour tous ceux qui s'intéressent à la théorie, à la pratique du théâtre et au-delà à la question de la représentation, de la figuration, de l'image même. Je veux parler du livre intitulé « Le théâtre est-il nécessaire ?» paru en 1997 chez Circé et dont la troisième édition paraîtra aussi cet automne. Parmi les titres peut-être moins connus mais tout aussi récents, je signalerai encore « Pour les amoureux de Jean-Jacques Rousseau » dont je suis L'enlèvement de la politique, sous-titré une hypothèse sur le rapport de Kant à Rousseau chez Circé en 2002 et Après la Révolution, sous-titré Politique morale chez Belin en 2003. Mais je ne voudrais surtout pas oublier le très beau livre qui a été pour moi l'occasion d'une vraie rencontre, un livre qui n'est pas un essai, une fiction dramatique, mais un récit au sens le plus noble du terme, plus exactement peut-être un portrait. Je veux parler du texte intitulé Insémite, paru chez Circé en 2003. Voilà, je lui laisse maintenant la parole pour cette conférence intitulée « Dramaturgie du football et questions nationales » que je ne saurais présenter vraiment puisque je vais la découvrir en même temps que vous. Mais je connais assez l'œuvre et la pensée de Denis Guénaud pour deviner qu'il ne s'agira pas de confondre ici théâtre et football au sein de la très discutable catégorie du spectacle au prétexte que l'un et l'autre relèveraient d'une même théoria. La réflexion théorique consistera peut-être ici à défaire cette théorie. Donc je lui laisse la parole.
Merci à Marc Escola, que je vous présente aussi un peu en retour, puisque c'était quelqu'un qui travaille dans notre maison commune ici et qui est aussi, je dirais presque en l'occurrence surtout, un des animateurs du très dynamique groupe Fabula. Donc je suis très heureux qu'il se soit, qu'il ait bien voulu parler du groupe et Marc avec ses autres animateurs s'associer sous une forme qui se construit avec la création de ce programme. Il me manque quelque chose d'important, excusez-moi, c'est la montre. La demande que le groupe de recherche théorique a adressée au conférencier est double. De ne pas éviter le point obscur de leur travail, comme vous pouvez le lire, et d'autre part, à cette occasion, de s'arrêter sur la nécessité ou les usages de la théorie, ou des théories. Alors, le point obscur de mon travail, dans mon cas personnel, c'est celui-ci, c'est que j'ai consacré des recherches à des questions de dramaturgie et d'autres recherches à des questions de politique. Et le point obscur, c'est la question de leur lien éventuel. C'est une question qui est pour moi encore énigmatique. Donc c'est sur ce lien que je vais essayer de m'arrêter aujourd'hui pour répondre à cette demande. Et d'autre part, quant aux usages de la théorie, ou des théories, des formalisations théoriques, des modèles formels, je me pose la question dans divers domaines, mais en particulier dans le domaine des théories politiques, comme d'autres qui interviendront dans ce programme. Et c'est cette question sur laquelle je voudrais ouvrir. Alors, pour rentrer dans la matière qui nous occupe, je vais essayer de sinon de répondre, au moins de traiter deux interrogations. La première, c'est comment comprendre le pouvoir de captation du football. J'appelle le pouvoir de captation le fait que je considérerais à peu près comme acquis, si vous voulez bien, dans ce travail, un fait qui est abondamment évoqué par les commentateurs, mais que je crois qu'on peut les uns et les autres constater, qu'on soit supposé amateur de football ou pas, et qu'on a pu constater ces dernières années en particulier, et parfois dans ces derniers mois. J'appelle pouvoir de captation le fait qu'il est difficile et peut-être impossible d'assister à un match de football sans se considérer comme prenant parti pour une des deux équipes. C'est-à-dire il est difficile, de prendre de l'intérêt probablement à un match de football sans considérer qu'on est pour l'un ou l'autre l'une ou l'autre des équipes. Et c'est assez net en particulier lorsqu'on n'a aucun intérêt direct. Par exemple, si on assiste à une rencontre de deux clubs qui sont très lointains géographiquement ou du point de vue des attaches, quelles qu'elles soient, qu'on peut avoir avec eux, il me semble qu'on s'ennuie à moins qu'on ne se considère comme partie prenante et que il me semble que la partie de foot produit cette captation. C'est la première interrogation que je voudrais traiter. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Et la deuxième interrogation, ce serait autour de la force du foot comme embrayeur national. C'est-à-dire le fait que le foot a une puissance qui semble s'être avérée ou confirmée comme tout à fait singulière pour ce qui est de produire de l'entraînement national. Alors pour aborder ces questions, je vais vous soumettre quelques hypothèses. Ce seront d'abord des hypothèses dramaturgiques. Dans la manière qui est un tout petit peu la mienne, je vais les présenter de façon assez nue, pas toujours en les argumentant. C'est une façon de les poser devant nous, et de les soumettre, de vous les soumettre, pour la discussion. Elles sont, pour certaines d'entre elles, assez méditées, et je crois elles peuvent être argumentées, je le ferai évidemment en partie, mais je voudrais les poser au cœur de notre soirée, comme des thèses, des hypothèses. Alors, d'abord des hypothèses dramaturgiques. Il y aura trois moments. Le premier, ce seront des hypothèses dramaturgiques. Premièrement, le récit. Je vous propose d'admettre, de considérer comme admis, c'est en tout cas un peu l'axiome de la soirée, qu'on pourrait appeler récit l'exposition d'un processus dans lequel un agent ou un groupe d'agents solidaires engage une action ou une série d'actions en vue d'un but, pour aboutir à la réalisation d'un but, et rencontre pour cela des obstacles qui entravent, retardent ou empêchent la réalisation de ce but. Alors je dis un mot sur cette hypothèse. Les techniciens de l'analyse de récit auront immédiatement perçu que cette hypothèse est composite. C'est-à-dire, elle associe deux éléments dont il est arrivé très souvent qu'ils soient dissociés. C'est-à-dire, elle associe la forme de l'action et l'existence d'un agent. Si vous voulez, elle associe une action et un acteur. Et elle considère que le récit lie indissociablement l'un et l'autre. Si vous voulez, c'est une espèce de définition qu'on pourrait dire vectorielle. Ça part d'un point qui est le porteur de cette action, et ce porteur se dirige vers un but et il rencontre des obstacles. Il est arrivé souvent, dans la réflexion très classique ou très ancienne depuis la poétique d'Aristote, ou assez récente, qu'on prenne le parti de privilégier l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ces deux pièces qui composent ici, que j'associe ici, que je vous propose de considérer comme associées. Voilà, c'est donc l'hypothèse sur le récit. Il n'y aurait récit qu'à partir du moment où il y aurait quelqu'un ou quelques-uns, mais solidaires, qui entreprendraient quelque chose et rencontreraient des obstacles dans la réalisation de ce but, en vue de la réalisation de ce but. Deuxième hypothèse, le drame. Qu'est-ce que ce serait qu'un drame dans ce cas ? Alors, je vous soumets la suggestion suivante. Un drame, ce serait un récit où la totalité ou la majorité des obstacles rencontrés par l'agent, disons l'agent A, hein, dont nous avons parlé tout à l'heure, la totalité ou la majorité des obstacles rencontrés par l'agent A dans la réalisation de son but proviennent de l'action d'un agent B. Alors je m'arrête un instant sur cette suggestion, sur cette proposition. Il est évident que ces obstacles peuvent être d'une autre nature. Ils peuvent être fortuits, ils peuvent être naturels, ils peuvent être internes. Il y aurait drame à partir du moment, en quelque sorte, si et seulement si, l'action de l'agent A rencontre des obstacles, mais ça c'est commun à tout récit, qui proviennent exclusivement ou principalement de l'action d'un autre agent B. Alors, cette hypothèse est, vous le sentez peut-être, elle a beaucoup d'héritage, cette hypothèse sur le drame. Elle est le produit d'une certaine transformation d'une thèse hegelienne. Vous savez bien, pour d'autres, vous savez de loin, ce qu'on ne saurait se reprocher, évidemment, que pour Hegel, il y a trois sortes de, disons, de discours, et en particulier de discours poétiques. Il y a l'épopée, l'épos, qui parle du monde, qui dit le monde, qui dit l'objectif, ou l'objectivité, si l'on veut. Il y a le lyrisme, qui dit le sujet, qui dit l'intériorité, qui dit le soi, si on veut. Et il y a le drame qui allierait l'un et l'autre. Le drame composerait, synthétiserait ou relèverait l'opposition du dedans et du dehors. Le lyrisme dit le dedans, l'épopée dit le dehors, et le drame produirait une sorte de synthèse de l'un et de l'autre. Alors je me suis souvent demandé, et j'ai eu souvent envie de dire quelque chose que Hegel ne dit pas, enfin, qu'il ne dit pas exactement, mais qu'à mon avis il suggère beaucoup dans les dernières parties de l'esthétique, mais qu'il ne dit jamais sous cette forme abrupte où je vais le dire. J'ai eu envie de considérer, je me suis toujours demandé, mais comment se fait cette relève chez Hegel? Et j'ai été porté à suggérer ceci. La relève se fait de la façon suivante. Dans le drame, ce que le soi rencontre comme monde, ce sont exclusivement d'autres soi. C'est-à-dire, le monde ne se présente dans le drame, à un sujet, si on veut, ou à un agent, que comme comparution, je vole évidemment le mot à Jean-Luc Nancy, comparution et à Jean-Christophe Vailly, d'autres et devant d'autres agents. Ce serait ça le drame. C'est en quelque sorte cette réélaboration qui a été proposée par Peter Zondi, mais en des termes qui sont les siens, je ne reprendrai pas exactement, Peter Zondi dit que dans la théorie du drame moderne, que ce que produit le drame, que l'idée, dit-il, l'audace spirituelle des gens qui ont inventé le drame, c'est d'imaginer en quelque sorte qu'il n'y avait que des relations entre sujets. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais de présentation d'un monde, il n'y a jamais présentation d'un dedans, si ce n'est comme, par l'intermédiaire de, la comparution de sujets devant d'autres sujets. Bon, eh bien, je propose de souscrire à cette hypothèse et de considérer que le drame traite le récit de cette manière. Complète ou complique le récit de cette manière. Le récit, le drame. Alors, troisième hypothèse, le match. On pourrait croire, à première vue, que le match est une espèce de drame idéal. C'est un drame absolument accompli, dans la mesure où les éléments du drame, en particulier le match de foot, les éléments du drame, mais vous le voyez bien, hein, que j'ai proposé, sont à la fois formalisés, épurés de tout élément extérieur dans la partie de foot. Dans la mesure où chacune des équipes n'a évidemment à un but, c'est le cas de le dire, à un objectif qui est un but, et qui d'ailleurs s'appelle chez nous au moins but, Et que pour parvenir à la réalisation de ce but, même le mot réalisation fait partie du vocabulaire sportif, pour parvenir à la réalisation de ce but, elle est entravée par l'action d'autres agents, et même d'un agent ou d'un agent collectif qui est exactement symétrique et en quelque sorte égal à l'agent initial. Mais il me semble, c'est en tout cas ce que je vous soumets ce soir comme proposition, il me semble que si à première vue le match est un drame idéal ou un drame parfait ou un drame accompli, si on s'en tient là, c'est un récit défaillant. Parce que avec cette forme pure, il manque quelque chose pour que ça soit tout simplement un récit, un match. Il manque de savoir qui est l'agent, qui est le porteur de l'histoire. Et c'est à mon avis la raison structurelle, formelle, qui fait qu'on ne peut pas voir un match sans décider qui est l'agent. Donc quelle est l'équipe ? Quelle est l'équipe qui est porteuse du récit du match ? On considère souvent que c'est un effet d'identification que produit le match chez les spectateurs. C'est évidemment vrai. Mais je pense que l'effet d'identification est ici second. Ce n'est pas l'identification qui est ici primordiale. C'est le fait que le spectateur qui décide qu'il est pour une des deux équipes, eh bien, il décide de produire du récit. Non, il n'y a pas de récit. Et donc, il décide donc de produire du sens, de produire de l'intelligible. C'est un geste, une opération de production de sens que de décider, avant une partie, au début d'une partie, en cours d'une partie, très vite, dès qu'on s'y intéresse, eh bien moi je suis pour les uns ou pour les autres. Voilà les hypothèses dramaturgiques que je voulais vous soumettre. À partir de là, j'en viens à ma deuxième partie. Je suis hanté par le démon de la brièveté, comme beaucoup de grands bavards. J'essaie de concentrer. Ma deuxième partie concerne le rapport entre le football et les nations. Je voudrais d'abord m'arrêter un instant sur la puissance du foot comme embrayeur national, ce que je proposais tout à l'heure de penser comme de désigner comme une capacité de fonctionner comme embrayeur national. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire à la fois des choses qui relèvent de l'observation courante et à vrai dire très banales pour les derniers temps, et puis quelque chose d'un tout petit peu peut-être plus précis tout de même. Je veux dire tout simplement que le football a manifesté, et en particulier on l'a vu parce que nous étions partie prenante dans les derniers mois, une capacité de condensation et d'intensification des images et des pulsions nationales, peut-on dire, qui est tout à fait singulière. Enfin, je pense qu'on peut avoir vécu comme étant singulière. Un effet produit, je dirais, sur chacun d'entre nous, ou enfin, probablement sur la plupart d'entre nous. Un peu différemment sur notre coordinateur, Johan Hollande, qui avait le bon goût de se trouver au moment de la finale du mondial, qui se trouvait en Chine. Bon, d'ailleurs, intéressant, c'est une question intéressante à lui adresser, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en Chine le jour de la finale du mondial France-Italie. C'est une question très... C'est-à-dire, en quoi le mondial est mondial, quoi. Si l'affaire France-Italie n'intéressait que les Français et les Italiens, ça limiterait sa mondialité. J'y reviens un peu plus tard. Bon, donc, moi si vous me permettez une petite confidence personnelle, même familiale, il se trouve que les hasards de la vie font que j'ai vu la finale avec ma fille et sa maman, et mon frère et toute la famille rassemblés pour l'occasion, ce qui est relativement rare, je l'ai vu à Marseille. Pourquoi à Marseille ? Parce que les hasards de la vie font que j'étais sur le chemin de l'Italie. Il se trouve, je dois vous avouer, mais certains s'en sont déjà avisés, que la maman de ma fille est italienne, et que donc ma fille est binationale. Elle est française et italienne. Nous nous trouvions le soir de la finale en France, mais très près de l'Italie, et le lendemain, nous avons voyagé vers l'Italie. Et donc, à quelques heures d'intervalle, j'ai pu vivre dans une famille française, dans ma famille française, et puis dans une famille italienne, que j'ose dire ma famille italienne, la proximité immédiate de ce qui s'était passé ce soir-là. J'ai été absolument saisi. J'ai été saisi parce que ce sont des gens de bonne composition, qui ne sont pas d'un nationalisme effréné, enfin, ils ont un sentiment national de bon ton, comme chacun d'entre nous. C'est vraiment vérité au-delà et en deçà des Pyrénées, quoi. C'est-à-dire, à peine passé la frontière, l'indexation du récit est complètement transformée. Ce qui a d'ailleurs posé des problèmes familiaux, puisque ma fille a dû décider ce qu'elle voulait. Elle avait les deux nationalités. Elle a les deux nationalités. Elle avait décidé, d'ailleurs, elle a décidé. Arrivant quelques heures après la finale, j'ai entendu ce discours que j'avais entendu la veille dans ma propre famille, enfin. Et évidemment, la dramatisation ici avait pris un tour absolument achevé, enfin, génial, du point de vue dramatique, avec l'affaire du coup de boule. Puisque le coup de boule était une espèce d'invention dramaturgique parfaite. Et on ne pouvait pas imaginer de scénario national plus élaboré, plus intense et plus pur. C'était une pureté absolue. Eh bien, sur le coup de boule, ce qui m'a frappé, c'est d'entendre en moi, en partie, d'entendre un discours, parce que pour tout vous dire, moi je trouvais que quand même Zidane avait un peu raison, quoi. Je ne suis pas spécialement amateur des coups de boule, ni donné ni reçu, et enfin, je me faisais des soucis pour lui. Je disais quand même c'est dur ce qu'on lui a fait, puis c'est dur la soirée qui passe, etc. Franchi la frontière, j'ai entendu des gens que je connais très bien, qui sont très proches, dire quand même c'est injuste ce qu'on fait à Materazzi. C'est injuste ce qu'on lui fait parce que Materazzi, quand même, on le prend comme bouc émissaire, alors que quand même, je veux dire, tout le monde fait ça. Dans les parcs, sur les stades. Et d'ailleurs, dans les colonnes des grands journaux, et des journaux de bonne tenue, on pouvait lire ça de part et d'autre. Je l'ai lu, d'un jour au lendemain. Donc, si vous voulez, cette force de l'identification nationale est devenue, pour chacun d'entre nous, un phénomène très concret que d'autres connaissaient de longue date, dans lequel nous avons été entraînés. Voilà. Il y a d'autres éléments sur le rapport entre le foot et le national. Et alors, évidemment, le foot ne se limite pas au national. Il y a évidemment toute une existence du foot et des compétitions et des identifications et du support et des supporters qui se jouent pas sur des questions nationales. Évidemment, hein. La réalité du foot n'est pas seulement celle des affrontements nationaux. Il y a les clubs, etc., locaux, il y a la hiérarchie des divisions, etc. Mais néanmoins, il me semble, je sais pas pourquoi, c'est une hypothèse que je vous soumets, mais sans l'argumenter, que cette valeur nationale du foot va s'accentuant. J'ai remarqué, ce que je ne savais pas, c'est que par exemple les clubs, j'ai remarqué en y réfléchissant que les clubs qui font des compétitions où le critère national semble ne pas jouer jusqu'au niveau européen, mais en fait le critère national joue, puisque pour être en coupe des clubs, pour être en compétition les uns contre les autres, il faut qu'ils aient été sélectionnés nationalement. C'est-à-dire que les clubs doivent d'abord être les meilleurs de leur nation, même si c'est en tant que club, avant d'affronter d'autres clubs. Et d'ailleurs, j'ai lu, en m'intéressant un peu à ces choses, j'avais pas remarqué qu'il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs. Il y a eu un projet de Coupe du Monde des clubs, de Championnat du Monde des clubs, et ce projet n'a pas abouti. Il n'y a pas de... Voilà, bon, je sais pas. Alors, cette capacité d'entraînement, elle s'est avérée, je crois, comme absolument exceptionnelle. Et je crois, alors là je ne vais pas y revenir, parce que nous l'avons, je crois, tous vécu, où que nous fussions, mais en particulier si nous étions dans un des pays concernés, je crois que moi je l'ai découverte autour de moi, je l'ai découverte en moi en 98, j'ai été littéralement happé par un mouvement, par une force collective, jusqu'à descendre de chez moi après la finale, pour rencontrer les gens dans une ville, dans la rue, etc., on l'a vécu en 2002, mais peut-être un peu affaibli, et je crois qu'on l'a tous éprouvé ces derniers mois, En tout cas, on le reconnaît, quoi. Un commentateur écrit, je ne souscrirai pas à ces termes, hein, bien sûr, hein, écrit, il est du foot, il est la seule activité, bon, c'est une phrase qui date des années 90, il est la seule activité sociale en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique tout au moins, qui puisse parfois rassembler dans une même passion un peuple entier. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça soit en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, et peut-être pas exactement au même titre ou de la même façon sur tous les terrains du monde. Ouais. Alors pourquoi cela ? Alors il y a une hypothèse d'explication de cette puissance et de cette force d'entraînement, non pas en tant que force d'entraînement nationale pour l'instant, mais en tant que force collective, d'entraînement collectif, et qui fonctionne lorsque le foot joue sur le plan national, que je vais vous livrer, enfin dont je vais vous livrer l'argument, mais qui n'est pas de moi, et qui se trouve dans un texte que je trouve absolument génial, hein, qui est un article de Pierre Clancher, que je ne connais pas, et qui s'appelle « Football, instabilité et passion », article qui ouvrait le numéro de la revue Communication consacré au spectacle du sport en 98. L'hypothèse de Pierre Clancher, qui à l'époque était, je crois, enfin, il y a de cela maintenant presque une dizaine d'années, était chercheur à l'université Victor Ségalin Bordeaux 2, l'hypothèse de Pierre Clancher est que quelque chose de cette capacité d'entraînement procède des règles du football elles-mêmes. Et je vais, sans rentrer dans le détail de son argument, qui est absolument passionnant, même quand on n'est pas spécialiste du football, je vais vous en dire quelque chose. Pierre Clancher, qui s'est livré à une enquête très détaillée à partir d'un corpus de 1000 matchs, fait un certain nombre de remarques sur les caractéristiques particulières de la partie de foot par rapport à d'autres. Par exemple, le fait que le foot est un sport avec une petite marque, avec un très faible nombre de buts marqués. Il y a très peu de buts marqués au football, et c'est une très grosse différence, semble-t-il, statistiquement avec la quasi-totalité des autres sports. Il y a une hiérarchie que je ne vous livre pas le détail, mais en tout cas, sur les 1000 matchs, c'est dans les années 90 qu'il avait examiné, la moyenne des buts était inférieure à 3, entre 2,5 et 3 buts marqués en tout par match. Donc c'est très peu comparé aux autres sports. Bon, d'autres observations, en particulier concernant l'enchevêtrement spatial des équipes sur le terrain. Et puis, il en vient à son hypothèse centrale, qui est celle-ci, que je traduis un tout petit peu dans mes termes, mais je vais bientôt adopter les siens, qui est que la partie de football se caractérise par le fait qu'elle est, en proportion, beaucoup plus fortement que les autres sports collectifs, que le résultat est réversible beaucoup plus longtemps et beaucoup plus souvent que dans les autres sports. Qu'est-ce que cela veut dire ? Réversibilité veut dire, en l'occurrence, que lorsqu'on se trouve dans un score, si vous voulez, dans un résultat provisoire, qui est un match nul, ça peut se changer en avantage, il suffit à cela d'un but, et lorsqu'il y a un avantage avec une différence de but d'un seul but, cela peut se changer en match nul, c'est-à-dire l'avantage étant perdu, et que ces deux situations, donc le match nul qui ouvre la partie ou qui peut se prolonger très longtemps, ou l'avantage d'un seul but, ces deux situations produisent ce qu'il appelle la situation d'instabilité. Instabilité parce que quand on est là, il suffit d'une action dans les secondes qui suivent pour que le résultat soit transformé, soit acquis très provisoirement, soit perdu. Et il appelle situation de stabilité relative la situation qui se produit à partir du moment où il y a deux buts d'écart. C'est-à-dire à partir du 2-0 ou du 3-1. Limitée lorsque ce sont deux buts et très forte lorsque c'est trois buts et plus. Donc la statistique à laquelle il se livre sur 1000 matchs montre que sur la totalité des parties envisagées, la situation qu'il appelle d'instabilité concerne dure, en moyenne, sur ces 1000 matchs, plus de 75 minutes sur 90 minutes. C'est-à-dire que pendant plus de 75 minutes, le spectateur, dont je vous rappelle, par ailleurs, voir ci-dessus, qu'il est favorable à une des deux équipes, le spectateur, pendant plus de 75 minutes, peut voir la situation de son équipe transformée dans les secondes qui suivent. Et on dit d'ailleurs, si une équipe marque 2 buts, et à plus forte raison 3, dans les premiers moments du match, on dit, paraît-il, je ne suis pas assez connaisseur pour dire, qu'elle a tué le match. Voilà, monsieur, je vois que vous connaissez la chose, que l'équipe qui a trop marqué a tué le match. Et d'ailleurs, je vous donne pas le détail des statistiques, mais c'est absolument captivant, ces situations d'instabilité. Si vous voulez, la stabilité de niveau 1, en moyenne, niveau 1, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a que 2 buts d'écart, dure 11 minutes en moyenne sur les 1000 matchs envisagés, et bon, avec des différences selon les nations, et la stabilité de niveau 2 dure 4 minutes en moyenne sur la totalité des matchs envisagés. C'est-à-dire que si vous voulez, le supporter, ou celui qui n'est pas supporter, mais qui se trouve en situation de prendre parti, de devoir prendre parti, pendant la plus longue partie du match, et parfois jusqu'à la dernière seconde, on le sait bien, et parfois au-delà de la dernière seconde, et parfois au-delà des prolongations, et jusque au pénalty, qui est l'élément d'instabilité le plus fort, et c'est ici montré par une argumentation détaillée, eh bien, le supporter ou le partisan se trouve en position de voir son bonheur ou son malheur soit produit, soit annulé dans les secondes qui suivent. Alors, il montre par ailleurs techniquement que l'écart entre l'initiative d'une action et la possibilité de marquer un but est beaucoup plus court que dans d'autres matchs. Enfin, je passe sur le détail. Bon. Bien. C'est, comme vous savez, la transformation du bonheur en malheur ou du malheur en bonheur, ça correspond à la définition aristotélicienne de la péripétie dans la poétique d'Aristote. Eh bien, cela produit, j'emprunte le terme à Pierre Clanchet, une situation qu'il appelle d'intranquillité, évidemment en empruntant le mot à Pessoa, et cette situation d'intranquillité vient du fait qu'il y a une péripétie possible dans les secondes qui suivent, pendant la plus grande partie du match, si le match n'est pas mort au début. Alors, vous voyez, cette association entre le fait de devoir prendre parti, à cause de l'hypothèse structurale que je proposais au début, et cette production d'instabilité est extrêmement forte, parce que vous êtes partisan et en même temps, vous êtes sans arrêt en situation menacée. Bon, alors si c'est vrai, cette hypothèse, et je pense que c'est vrai, il faudrait conclure quelque chose que je soumets aux éminents spécialistes de dramaturgie qui se trouvent dans cette salle. Cela veut dire qu'une des caractéristiques de la partie, c'est tout de même... et de foot comme ailleurs, mais peut-être plus qu'ailleurs, c'est tout de même, stabilité veut dire donc ouverture, veut dire donc indécision. C'est le fait de garder extrêmement longtemps un caractère ouvert, donc indécidé. Et si c'est vrai, alors ce n'est pas tout à fait, ça ne correspond pas, me semble-t-il, tout à fait à la définition du drame, du dramatique. Je pourrais, mais nous n'entrerons pas dans ce débat technique, pour le coup, ou théorique, pourrait rentrer en détail dans la question de savoir si le drame admet, tolère ou pas une fin indécise. Je n'en suis pas sûr, pour ma part. En tout cas, non seulement le match de foot la tolère, mais il la requiert impérativement. C'était mon deuxième moment. Voici le troisième moment. Ce troisième moment, ce seront des hypothèses politiques. Elles sont évidemment risquées, mais c'est évidemment un pléonasme. Si elles sont politiques, elles sont risquées. Alors, la première chose est là encore une sorte d'évidence ou de lieu commun. Il me paraît évident que le capitalisme mondial, si vous voulez bien qu'on emploie ces gros mots, le capitalisme mondial est l'organisateur du spectacle sportif à partir d'une certaine échelle et de plus en plus. C'est une chose sur laquelle les études abondent. D'abord, de par l'économie du sport, dont on montre qu'elle est de plus en plus une économie, disons, marchande, c'est peu dire, et même capitaliste. Ensuite, de par l'économie des images, auxquelles elle est tellement liée et qui l'a tellement transformée, hein, on sait que l'économie des images a une énorme influence sur l'économie du sport, en particulier du foot, et on sait aussi que l'économie du sport a beaucoup d'influence sur l'économie des images, au sens où l'économie des images du sport est devenue un élément décisif de l'économie des images en général. Et d'ailleurs, si vous me permettez le rapprochement très brutal de l'économie des images, c'est-à-dire de l'économie tout court ou de l'économie générale, puisque sur ce point, il en faut bien, je reste strictement, je vous prie de m'en excuser, je reste strictement debordien, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de meilleure caractérisation pour définir cela que de dire que nous sommes devant un phénomène qui est spectaculaire de marchand, mais qui n'est pas simplement la juxtaposition de deux caractéristiques qui viendraient se joindre, mais je pense que ce sont deux choses qui s'interpénètrent très profondément. Je pense qu'il n'y a plus de spectacle qui ne soit marchand, ce qui est une chose relativement simple à admettre, mais beaucoup plus profondément qu'il n'y a plus de marchandises qui ne soient spectaculaires. Une soit prise dans l'économie du spectacle. Mais c'est un point de discussion, j'imagine, pour cette séance ou pour certaines des suivantes. Si tout ce que je viens de vous dire de façon massive et brutale est probablement infiniment discutable, si tout ce que je viens de vous dire, vous voulez bien au moins l'admettre très temporairement comme hypothèse, alors il devient assez clair, par rapport à ce que nous venons de dire, que il nous faut admettre que le capitalisme mondial produit du national. Par l'intermédiaire du sport en l'occurrence, et peut-être pas simplement par l'intermédiaire du sport, mais qu'il produit, qu'il requiert, et qu'en un certain sens il ne fait pas que requérir, il secrète, il produit du national. Et pas seulement du mondial, contrairement à une opinion extrêmement courante. Le capitalisme mondial ne produit pas que de la mondialité. Le capitalisme mondial produit du national. Certains auront peut-être reconnu là l'influence évidente de thèse d'un très grand chercheur pour qui j'ai une immense admiration et à qui je vais maintenant emprunter beaucoup, qui est Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein qui est... ce matin, je me suis avisé de chercher ces volumes dans une bonne librairie parisienne. Ils sont dispersés, certains sont en économie, certains sont en politique, certains sont en histoire, certains sont en géographie, voilà. Donc, il n'est nulle part. Voilà. C'est un très grand, à mon avis, très grand théoricien, très discutable, comme tous les grands théoriciens, et qui travaille aux États-Unis, enfin, qui est américain, et qui est directeur du centre Brodel de Harvard, et beaucoup d'autres choses. Parmi le corpus théorique de Wallerstein, qui est complexe, très riche, très clair, extrêmement riche, et que je ne voudrais pas prétendre ici résumer si peu que ce soit, dans ce corpus théorique, je vais prélever une hypothèse qu'il faudrait argumenter, mais que lui argumente très en détail, depuis 30 ou 40 ans, et que je vais simplement énoncer de façon brutale, qui est que ce qu'il appelle le système monde, et en tout cas le système monde moderne, il y en a eu plus d'un, les systèmes monde de nature diverse, le système monde moderne, il faut entendre ici moderne au sens de apparaissant avec les temps modernes, donc le système monde moderne, c'est quelque chose qui apparaît au XVIe siècle, quoi, au XVe ou au XVIe siècle, que le système monde moderne se caractérise par son caractère interétatique. C'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a aucune réalité, Wallerstein considère et argumente beaucoup sur le fait qu'il n'y a aucune réalité à l'idée d'autonomie des États ou de l'État. Et que les États se produisent toujours dans un système interétatique, et que dont ils sont une pièce, que l'autonomie de l'État est une fiction absolue. Et même, dit-il, mais là sur ce point je ne serai pas tout à fait, je ne ferai pas la même stratégie terminologique que lui, et donc toute idée de souveraineté comme autonomie. Bon, il argumente en particulier sur le terrain économique, sur lequel il est très à l'aise, et en particulier dans l'époque récente, pour montrer que le capital a besoin des États, a besoin des États et de la différence des États. Bon, je ne vais pas tenter de reproduire l'argumentation ici, elle est économique, au moins autant que sociopolitique, mais elle est surtout et d'abord économique. Et donc, il nous montre, en quelque sorte, que, enfin, il nous suggère, il nous propose que l'idée selon laquelle le capital œuvrerait en permanence à la désétatisation, l'idée, si vous voulez, que le capital serait anti-étatique et que le capital lutterait contre l'État pour s'en affranchir, cette idée fait partie et intégrante pour d'excellentes raisons de l'idéologie du capital, mais ne correspond pas à la réalité de son fonctionnement. Que le capital demande de l'État, en tant pour ses propres besoins dans l'économie capitaliste, mais qu'il demande de l'État dans la différence des États. Alors il y a une analyse là très très forte des besoins du capital en matière de frontières, de protection et de franchissement des frontières, de migration des populations travailleuses ou pas, et de réglementation de ces migrations, de prise en charge d'une partie des coûts de la production, d'externalisation, si vous voulez, des coûts, en particulier les coûts liés à la pollution, les coûts liés au renouvellement des matières premières, les coûts liés au transport, dont Wallerstein montre avec beaucoup de précision que le capital requiert en permanence l'intervention très, très économique, hein, ici, et très directe, de l'État pour fonctionner, y compris dans ses développements les plus récents. Il y a également une analyse sur la différence entre les États faibles et les États forts, ou ce qu'il appelle par ailleurs le centre et la périphérie, dans la stratégie de développement cyclique du capital. Bien. Si on suit, et je le suis pour ma part vivement, enfin, si on suit cette hypothèse selon laquelle le système monde moderne a besoin de la différence des États et des États dans leur juxtaposition et leur différence, alors ça entraîne une modification profonde de l'idée qu'on se fait de la nature de l'État. C'est-à-dire l'État n'est plus à mettre en rapport avec un peuple, voire avec une nation dont il serait ou l'expression ou même le fabricateur. Mais l'État est toujours à penser dans la différence des États. L'État est toujours à penser comme une pièce dans le régime des États. Alors, je rapproche maintenant ce que je viens d'emprunter à Wallerstein à ce que je vous proposais un peu plus tôt. Si on imagine qu'on peut tenter un rapprochement de ces champs, soit par la vertu d'une espèce d'homologie, soit par la vertu d'une sorte de résonance de l'un sur l'autre. Que nous apprendrait la compétition nationale du foot sur la compétition des États, dont elle serait en quelque sorte à la fois l'image et parfois l'aliment. Elle nous apprend ceci, peut-être, si on veut bien suivre tout ce chemin que je vous propose à très grands traits, que cette compétition est ouverte et en partie indécidée. Si le foot dit quelque chose du système actuel du monde, et apparemment, moi j'ai l'impression qu'il le dit, ça veut dire qu'il est trompeur de croire que le jeu est joué d'avance. Ce que le foot nous dit, nous suggère, nous propose, alors vous pouvez penser que c'est un pur mensonge, une discussion qu'on pourrait avoir entre nous bien sûr, c'est que du point de vue même du capital ou du capitalisme mondial qui l'organise, qui en organise le spectacle, cette compétition n'a pas un destin qui est déjà déterminé. Il n'y a pas plus dans la compétition nationale que dans... Il y a des forts et des faibles, bien sûr, c'est évident, c'est même le cœur de la question, mais il n'y a pas plus de fin absolument décidée qu'il n'y en aurait ce que la partie de foot nous suggère. Ou bien, pour le dire autrement, il n'y a pas dans ce que le capitalisme produit et propose de domination mondiale unique. Ou bien, pour le dire autrement, il n'y a pas d'État mondial unique, ou bien au sens étatique, ou bien au sens domination mondiale utilisant des ressorts étatiques. Ou bien, pour le dire autrement, il n'y a pas d'empire. L'empire n'est pas le bon concept pour penser cela. Donc, si on imagine que tout ceci est une once de vérité, on arrive peut-être à cette conclusion. Là, vous savez, je suis au bout du point obscur. Hein. Je suis à la phase la plus incertaine, la plus risquée, mais c'est la règle du jeu. Je m'y prête. Je me prête d'autant plus volontiers que je suis pour quelque chose dans le fait qu'elle ait été énoncée. Mais bon, je m'y prête avec plaisir. C'est vraiment, on est à la pointe de l'incertain. Ainsi comme disait Deleuze, on ne pense pas, on n'expose pas ce qu'on sait. Mais à la limite entre ce qu'on sait et ce qu'on cherche, surtout si on expose à ce point d'indécision-là, j'y suis pour ma part en plein, là, maintenant. Je ne sais pas si ce que je vous dis est avéré ou pas. Mais je vous le soumets comme une hypothèse. S'il n'y a pas d'empire au sens où le destin de la compétition serait d'ores et déjà joué. Et s'il n'y a pas non plus de désétatisation comme horizon de ce qui nous attend, si ce que le capital mondial nous machine, ce n'est ni un grand empire unique, ni un grand marché absolument sauvage. Alors ça veut dire que le capital, nous n'en avons pas fini avec le fait qu'il produise de la différence des États. Vous savez, c'est ce que Jaurès disait de la guerre. Hein, Jaurès disait que le capital produit la guerre comme la nuée. Le capital porte la guerre comme la nuée porte l'orage, pardon. Eh bien, à bien des égards, la compétition sportive prend la forme fictionnelle de ce que dans certains terrains qu'occupait la guerre précédemment, et pas dans tous bien sûr, on en sait quelque chose. Et donc, ce que je voudrais simplement ici suggérer, c'est que le capitalisme en rajoute sur la différence des nations. Il en reproduit. Il ne peut pas s'accommoder de son extinction. Il a besoin de la remettre en circuit, et nous l'avons senti en nous, lors même qu'elle s'épuise. Cette différence des nations est un produit, probablement, d'une partie de l'histoire du monde qui a été associée à celle du capitalisme, au mauvais sens du mot, et il ne peut pas s'en émanciper. Quelle serait ici l'utilité de la théorie, à supposer qu'elle en est, ou de la proposition théorique ? Ce serait peut-être de nous inviter à nous défaire de deux idéologèmes, de deux suggestions strictement idéologiques, de deux mythes, si vous voulez, de deux mythes idéologiques. Premièrement, l'idéologie de l'empire mondial, unique et monocentré, et deuxièmement, l'idéologie de l'unification non étatique du monde par le capital, qui sont évidemment symétriques. Il n'y aura pas d'unification du monde par le capital, et il n'y aura pas d'impérialisation unique du monde. Mais par contre, nous n'en avons pas fini avec, au sens le plus large du mot, la guerre. Ce qui veut dire encore que nous n'avons pas à attendre, comme de bons esprits essaient de nous le faire croire, du capital qu'il nous unifie le monde. Il en crée parfois certaines conditions, comme Marx l'a dit, on le sait bien, il crée certaines conditions de cette unification possible et peut-être souhaitable, mais en tout cas, s'il y a une unité du monde humain à faire, c'est à nous de la faire, le capital ne la fera pas. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Denis, pour cette série de hypothèses, de propositions, et tout particulièrement peut-être pour les toutes dernières, qui appellent vivement la discussion, sans doute. J'aimerais ouvrir le débat, si quelqu'un veut prendre la parole. spécialiste de football ou des spécialistes de théâtre.
Ou d'autre chose.
Justement.
Jean-Baptiste Brenet.
Jean-Baptiste Brenet.
Alors, une petite chose de méthode pour la soirée et puis au-delà, pour les soirées que nous partagerons peut-être ensemble. Je réponds aux questions qui me sont posées avec beaucoup de plaisir, mais je ne voudrais pas systématiquement vous imposer une réponse à toutes les questions. Donc, s'il se trouve qu'il y a dans la salle, alors la scénographie se prête peu au caractère collectif. C'est pourquoi d'ailleurs je signale que les autres séances, les séances de travail dont parlait Marc tout à l'heure, n'ont pas lieu ici, bien sûr, hein, parce que ce serait bien difficile d'y avoir un véritable travail de groupe. Mais enfin, si par exemple sur la question que vient de poser Jean-Baptiste Brenet, qui sera un de nos conférenciers, vous voulez intervenir, je ne tiens pas à... Je n'aurai certainement pas quelque chose à répondre sur chacune de vos questions. Oui, monsieur ?
Et il y avait un déchirement entre l'individu et l'équipe. Quand il y avait une finale entre l'Italie et l'Argentine, les Italiens étaient déchirés entre l'Italie et Maradona. Et c'était fidèle à quelque chose de profond, puisque à la fin des années, au début des années 2000, quand on a choisi le joueur du siècle, Maradona a été choisi joueur du siècle hors des journalistes, les journalistes étaient choisis, il a été choisi par le public, grâce au vote des Italiens. Alors qu'il avait éliminé l'Italie. Je pense que ce qui est vrai dans le football, il y a une dialectique permanente entre le collectif et l'individu. Et la fascination qu'a exercée sur les Italiens Maradona, quelque chose dont on n'a pas idée si on est prêt en Italie. Moi, j'ai tout vécu, y compris Zidane, y compris Platini. Maradona, à un certain moment, le père de Mozart dit à sa femme, votre fils est considéré avant tout comme étant un esthète. Et tous les dimanches, chez Maradona et à Estelle. Et Platini dit, c'est un martien. J'ai vécu 6 ou 7 ans en Italie, dans une espèce de fascination de l'individualité. Et qui a duré, encore une fois, un déchirement des Italiens contre la vie, c'était quelque chose de très intéressant dans une certaine forme de barbecue.
Jean-Pierre Klein.
Oui,
moi, quand je fais des noms, je dis à ta place. Pardon. On va te répondre.
Il y a quelque chose d'essentiellement théâtral, puisque ça touchait à une compétition entre les valeurs, une hiérarchie entre les valeurs. C'est-à-dire, bon, c'était une Antigone, entre la louette de Dieu ou par les femmes de la vie, qui est que la personne est partagée entre deux courants, deux valeurs, deux appartenances, entre l'amour et l'exercice de la royauté.
Alors, je vais tout de même dire quelque chose sur... vas-y, Michel, vas-y, je sais pas si tu veux.
Ma question est très simple, pour ça répondre. Est-ce que tu fais de l'arbitre autrement dit? Je ne vois pas par exemple, c'est plutôt la position de l'arbitre. Est-ce qu'on suit une chose plus qui est existante? Donc, maintenant, je pense confronté à ça, je veux dire aussi que littéralement, il n'y a pas de difficulté, c'est-à-dire il y a des lieux de réfringence, au cas. Par rapport à la déception, l'étonnement, qu'on est ici tout d'un côté et de l'autre côté, fait comme si le jeu était une position arbitrale, une position telle. Alors il faut en décider. Autrement dit, la question sur l'arbitre, on voit cette remarque que nous, comme en physique, il y a des lieux de réfringence. Mais l'optique n'est pas le lieu de réfringence. Est-ce qu'il y a une position scientifique ou arbitrale, etc.
Alors, je voudrais... Ah oui, vas-y, on y va. Vas-y, c'est Bernard Stiegler. Bernard Stiegler,
je voulais vous partager une expérience personnelle. Je suis
pasteur
dans une quand je demande si le fait qu'on ait besoin, à un moment donné, d'acter, c'est-à-dire de mettre un acteur qu'on considère comme un acteur avec lequel on s'identifie, comme je disais, c'est une structure, c'est posé par le théâtre, c'est bien longtemps, structurale, au vieux sens du terme, c'est un certain, mais ce point structural, il n'est pas lié simplement au corps. Je pense qu'il est lié que toute expérience esthétique, et je dis bien esthétique, et le football est d'abord une expérience esthétique, suppose cela. Je ne viens pas qu'il n'y a pas d'expérience esthétique qui ne l'articule, qui l'appelle de l'attendu et de l'inattendu. Et qu'il y a des horizons d'attente qui sont, pour aller voir un spectacle, quand il y a eu un débat, quand il y a eu une polémique avec le petit Jacques Profusson, le grand musicien du théâtre musical d'origine grecque que tu connais.
À Perkis.
À Perkis. Donc, ce sont les opéras, les derniers opéras qui ont planté à Lille, autour de la figure de Moby Dick, en disant que jamais une œuvre puisse être expérimentée sans qu'un horizon d'attente soit convoqué, alors qu'il soit l'horizon national, qu'il soit l'horizon de la nature, qu'il soit le connaisseur de même ville ou de quoi. Mais ça, je pense que c'est un cours de tout. C'est un critique dans lequel on a pensé que c'est un critique, mais c'est un cours collectif. Bien que ça tienne d'abord sur une individuation de l'autre, pas simplement psychique, mais bien collectif. Et donc, dans ce cas, parce que là, on parle d'identité identitaire, de classe, etc. Moi-même, je n'aime pas le foot. Quand je dis que je n'aime pas, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est pas ce que c'est, mais je ne regarde jamais pour un match de foot. Mais ça m'est arrivé dans l'air deux fois dans ma vie. Un, c'était la demi-finale de la Coupe du monde de football de 98, parce que je me suis trouvé pris dans ma bagnole, je passais le coup de table de France, j'ai été pris par le feu des tirs au but. Et finalement, ça a duré le temps de la chez moi. J'ai finalement dû la télé au Marion pour dire j'étais là aussi. Je ne vois pas la suite. C'est la première fois que j'ai regardé. Et la deuxième fois, c'était, car je n'ai pas regardé, parce que j'ai plus de télévision depuis. Je suis tenu à la télévision, pour d'autres raisons. Mais en revanche, pendant la demi-finale et la finale de cette Coupe du Monde cette année, j'habite rue Saint-Martin, je suis en Pompidou. Les terrains qui sont partout, avec des écrans géants partout. Moi, j'avais décidé de ne pas me casser du doigt sur la deuxième. Mon épouse était par ailleurs à la campagne avec ma fille, donc j'étais seul à bouffer, je serais tiré trois que j'entends, et je ne pouvais pas ne pas suivre. C'était absolument impossible, puisque de toute façon, tout le monde le suivait. Et donc, j'avais dit, moi, je me mets des boules de caisse pour ne pas suivre. Et à un moment donné, j'ai été obligé, parce que. J'entendais des tas de trucs, ça, je ne savais pas ce qui se passait, à un moment donné, c'est pas possible, il faut que je t'appelle. La ville entière vit
Et donc j'ai eu le match, le but, une seconde après. Mmh. Et je te dis ça aussi parce qu'il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis, c'est la
délégation.
Ce système du sport du parc n'est plus que
bien sûr. Parler du coup de boule, pour dire quelque chose. Alors, Je vais essayer de prélever, bien sûr, je ne vais pas répondre à tout ça, ni à l'une, ni à chacune, ni à la totalité de. Mais évidemment, comme vous imaginez, j'ai beaucoup à dire parce que je présente de toutes petites parties émergées de travaux qui sont évidemment depuis longtemps et qui touchent beaucoup de questions, de celles qui ont été évoquées. Alors, je voudrais dire un mot sur la question initiale qui a été posée par Jean-Baptiste Brenet. Et je veux dire que je suis extrêmement touché et sensible par le fait que plusieurs de nos conférenciers de l'année aient choisi d'être là ce soir, ce qui prouve que nous sommes dans un processus qui est partagé et qu'il y a quelque chose de je l'espère, collectif, et qu'on n'est pas simplement dans une juxtaposition de conférences. C'est vraiment très fort pour nous quoi, de voir ça ce soir. Alors, l'affaire de Jean-Baptiste Brenet demande produire du sens devant le match. Oui, mais pourquoi considérer qu'il faut le produire à partir d'une équipe plutôt que le produire à partir d'un individu ou, dis-tu, d'un événement? Alors, il faudrait une réponse précise à chacune de ces deux hypothèses. En tout cas, d'abord, le phénomène de sens qui est un match de football et la participation qu'on y prend, ou le regard qu'on y porte, est un phénomène extrêmement complexe, qui associe plusieurs niveaux. Et évidemment, dans la proposition que j'ai faite, et c'est un peu ma manière, j'ai brutalisé les choses pour leur donner une lisibilité. Il y a, comme le disait monsieur à l'instant, il y a d'autres niveaux de lecture du match. Il y a le niveau Zidane, mais je vais revenir sur Zidane. Je vais revenir sur le football, si vous me permettez. Mais c'est quand même une sacrée affaire, ça. Sacrée. Alors, il y a des niveaux de lecture assurément qui sont multiples et parfois même qui peuvent entrer en contradiction. Mais il me semble néanmoins que les règles formelles du foot privilégient l'équipe sur l'individu et privilégient assurément la partie sur l'événement. L'équipe sur l'individu, on le voit, je crois, clairement en comparant à d'autres sports. Il y a des sports où l'élément d'héroïsation est strictement individuel et où l'élément national joue peu. Par exemple, le tennis, où l'élément national joue, mais quand même moins. Hein, on est plus sensible à des individualités ou des personnalités. Il y a eu, dans les grandes époques du cyclisme, il y aurait beaucoup à dire sur le Tour de France, justement, depuis que les équipes ne sont plus nationales. Il y a des niveaux de lecture d'une partie qui peuvent en effet associer un élément individuel. Moi, il me semble que la partie de foot t'amène, et je dirais de plus en plus, à faire une lecture en termes d'équipe plus qu'une lecture en termes d'individu. Je crois d'ailleurs que beaucoup d'éléments le montrent. Par exemple, dans l'affaire des supporters, l'extrême facilité, passée quelques jours ou quelques semaines, après laquelle les supporters, ce qu'on n'aurait pas cru il y a 15 ans ou 20 ans dans les études sur le foot, admettent les transferts. La force du rapport à l'équipe reste le rapport à l'équipe. Alors, sur un moment donné, il y a la crise, on dit, on reproche, il y a s'en aller ou quelqu'un d'arriver. Mais le rapport à l'équipe reste globalement inchangé. Beaucoup d'enquêtes le montrent. Hein. Et alors qu'on aurait pu croire, par exemple, que le rapport à l'équipe, que les Marseillais s'intéresseraient à Marseille, excuse-moi Jean-Baptiste de parler de Marseille, mais que les Marseillais s'intéressaient à l'OM parce que c'était Marseille et que dans l'OM il y avait des Marseillais. Bon, c'est bien que dans l'OM il y a très très peu de Marseillais, et comme d'ailleurs dans toutes les équipes qui jouent aujourd'hui à un certain niveau de visibilité. Et ça ne change pas, ce qui a beaucoup étonné les analystes, c'est que ça ne change pas le rapport d'identification ou le rapport des spectateurs, et en particulier des supporters à leur équipe. Bon, il y a des zones de conflit, je ne les ignore pas, mais en tout cas, le fait que globalement, une équipe, un club, si l'on veut, recrute dans des gens qui ne sont, pour une grande part, qui n'aient pas grand-chose à voir avec la région en question, ne change pas le rapport du public à son club. C'est assez frappant, ça. C'est-à-dire qu'en fait, la grille de lecture est plus la grille de l'équipe que la grille de l'individu. Et je pense d'ailleurs que le déroulement de la partie le demande. C'est-à-dire la partie t'amène pas à héroïser un individu, même s'il est connaisseur, mais t'amène à héroïser la partie. Et d'ailleurs, bon, je crois. Alors, je veux simplement ajouter quelque chose à ce propos, au complément que vous avez apporté, monsieur. C'est qu'il n'est pas impossible que par rapport à 90-91, les choses aient évolué dans un certain sens. Et qu'en particulier, dans la compétition internationale, puisque j'ai choisi de parler de celle-là aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres bien sûr, hein, que dans la compétition internationale, il n'est pas impossible que l'élément que vous dites ne soit plus autant possible que ce qu'il l'était il y a 15 ans. Par exemple, en effet, Zidane a joué en Italie, hein, les Italiens l'aiment bien d'ailleurs en général, mais dès qu'il y a eu l'élément, il a joué assez longtemps en Italie, hein, bon, pas ces dernières années, mais, hein, mais dès que l'élément de conflit se joue, alors Zidane ou pas, c'est l'Italie, quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire quelque chose, excusez-moi d'être bref, je voudrais dire quelque chose sur le... Bon, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a une évolution, à mon avis, liée au spectacle mondial, et liée au fait que le spectacle mondial change les modes de transmission, il change aussi les images des contenus, une évolution qui, je crois, dans le cas du foot, privilégie l'élément national aujourd'hui, au fur et à mesure que la capacité d'entraînement du foot se renforce. Et, je sais pas, cause et effet se mêlent. Je voudrais dire quelque chose sur le coup de boule, avec lequel vous n'allez sans doute pas être d'accord, mais c'est quelque chose que je soumets à votre discussion. Hein. Et je vous le dis, je vous assure que ce n'est pas du tout pour dire que ce que vous dites est faux. C'est pour vous proposer un éclairage. C'est que le discours moral que vous vous êtes tenu, que vous nous avez tenu, mais que moi je me suis tenu aussi de la même façon, sur Zidane, c'est un discours national. C'est-à-dire qu'il y a une certaine façon française de penser l'exemplarité éthique. Vous savez, et on remarque très souvent que les grandes... alors ça c'est une grande affaire le statut du nationalisme français dont il faudrait parler. Vous savez que le nationalisme français est assez bizarre quand on utilise ça. On l'étudie dans l'histoire des nationalismes. C'est assez singulier le nationalisme français. Et de grands esprits l'ont compris et même l'ont ramassé parfois dans des formules saisissantes, comme De Gaulle. Mais le nationalisme français n'est pas et n'a jamais été, dans sa version la plus expansive et même la plus conquérante, une valorisation des particularismes de la France. Jamais. Il s'est toujours présenté comme au service d'une idée morale. Je ne dis pas qu'il l'était, hein, comprenez-moi bien, je ne dis pas que c'était simplement que le colonialisme français, par exemple, aurait toujours été de la grandeur morale. Ce n'est pas ce que je veux dire, du tout. Mais je veux dire que, alors, c'est une affaire que j'ai pour ma part suivie d'assez près dans l'ouvrage qui s'appelle Hypothèse sur l'Europe, en particulier en essayant d'analyser la constitution du nationalisme français et du nationalisme allemand dans leur histoire complexe et très asymétrique. Alors que depuis la philosophie, jusqu'à l'idéologie de masse, la pensée allemande a toujours essayé, pas seulement la pensée allemande, hein, beaucoup d'autres, a toujours essayé de penser la singularité et même le particularisme de ce qui faisait qu'une chose était allemande, y compris dans la musique, eine deutsches Requiem, y compris dans la littérature, hein, y compris dans la poésie, y compris dans le cinéma. Hein. Regardez par exemple, le grand cinéma français parle très peu, on y prononce très peu le mot France et français. C'est-à-dire que le cinéma national, c'est-à-dire qu'en fait il y a une étrange intrigue entre le nationalisme français, y compris dans ce que parfois il peut avoir de pire et même de violent, et une certaine présentation universaliste, hein. Donc ce qui fait, je dis ça parce que comme le coup de boule moi je l'ai vécu le lendemain en lisant le Corriere della Sera, hein, et que je n'ai pas pu écouter les explications de Zidane à la télé, parce qu'elles sont très peu passées en Italie, hein, il y avait un discours que je me tenais à moi-même, et que c'est-à-dire quand même, Zidane, il a sacrifié sa propre image sur l'autel d'une certaine idée morale, hein, hein, et ça c'est peut-être un fantasme français, alors que du côté italien on disait... Oh mais écoutez, c'est dégueulasse parce que c'est toujours comme ça sur les parties dans les matchs, on s'insulte tous et personne n'en fait de telles histoires. Hein. C'est pas le même type de proposition éthique, si vous voulez. Hein. C'est pas le même type de. Il y a même une espèce de. Vous voyez, une espèce de. Alors, ce que je veux dire, c'est ce qui est très étrange, et que c'est allé très loin, cette affaire, comme tu viens de nous le rapporter, cette affaire d'entraînement. Ça nous a entraîné très loin, ce regard sur les... Et ça nous a entraîné à tenir un discours de près ou de loin national, alors que parfois nous y étions peu, comment dire, habitués ou disposés, ou voire même que nous nous croyions peu dépositaires de cette façon de voir. Bon, je suis trop long sur ce point, mais il me tient à cœur. Alors, simplement, je voudrais ajouter un point de détail, mais il faudrait répondre beaucoup, évidemment, à ce que tu as proposé, Bernard, et de même à la question qu'a posé Michel Deguy. Je voudrais simplement dire que je pense, parce que, bon, je me suis peut-être mal fait comprendre, parce que ma conclusion est extrêmement rapide et tellement elliptique qu'on peut la comprendre à l'envers. Je ne voulais pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de phénomène de mondialité ou d'universalisation, que ces phénomènes seraient superficiels, ou que... Non, c'est même, je voulais dire en un certain sens le contraire, puisque c'est ce que je voulais suggérer dans ma conclusion en disant c'est à nous de les prendre en charge. Parce que quand nous sommes internationalistes, c'est-à-dire quand nous sommes cosmopolites au sens kantien, c'est-à-dire quand nous tenons pour l'unité de l'humain, quand nous disons, en fond, nous sommes... c'est l'affaire de l'humain qui nous intéresse. Je dis nous, pourquoi est-ce que je dis nous, je ne sais pas, hein, mais si on dit ça, on s'entend souvent répondre, ne faites pas de souci, l'unification du monde, le capital s'en occupe, hein, et il va vous la servir sur un plateau. Et je crois que c'est profondément faux, pas seulement à cause de les nations, comme j'essaie de l'argumenter ce soir, mais par exemple, on pourrait tenir la même chose sur la richesse et la pauvreté, hein, sur la question de la justice, si on veut, hein. Il est faux que le capitalisme va être unificateur. C'est faux. C'est un idéologème du capitalisme lui-même. C'est-à-dire, c'est ce dont le capitalisme essaie de nous persuader à son propre propos. Et il me semble qu'un des instruments de cela, alors je ne dis pas que ça n'a aucune réalité, mais qu'un des instruments de cela serait de se présenter dans l'horizon d'un anti-étatisme absolu. Ce que je ne crois pas qu'il le dit, assurément, sans cesse. Je crois qu'en partie, ça correspond à des réalités. Mais ce que je voulais dire, en durcissant un peu le propos, c'est qu'il me paraît faux de concevoir que ça va être, que c'est notre avenir si nous le laissons faire. Ou bien, ce que je voulais dire, l'unité de l'humain, c'est aux hommes de s'en occuper.
D'autres interventions. J'ai quelques inquiétudes sur l'heure de fermeture de la Sorbonne. Il ne ferme pas.
Sinon, on n'y passe pas. Il y a Georges Forestier, Bernard Franco. Avant que nous nous séparions, quand nous nous séparons, moi j'ai tout mon temps, mais je ne veux pas abuser du vôtre, je voudrais dire un mot de la suite du groupe de recherche théorique. Mais je ne veux pas interrompre la discussion.
La force, et parce qu'on a demandé les Français le sort de la Coupe du Monde, c'était la France à dominer.
aussi, c'est une dramaturgie interminable. C'est ça qui est vraiment extraordinaire, précisément une dramaturgie interminable, parce que c'est un sport qui est totalement incertain. À cause du petit nombre de buts et puis, du fait que c'est, ça peut être à tout moment transféré. C'est pour ça que c'est différent, l'identification de chaque affaire, de la même manière au basket, je ne sais pas si c'est parce que dans les grands stades, etc., parce que précisément, ça passe à travers les médias maintenant.
Bien sûr.
On le voit dans les stades, mais
la télé.
Exactement comme on le voit un match de basket plusieurs fois. C'est ça qui fait cette dramaturgie particulière de qui culmine un tir au but. Zidane même a déclaré, c'est notre Dieu et notre Dieu, le tir au but, c'est le hasard. Et lorsqu'on arrive à ce moment-là, on est encore plus suspendu.
Bien sûr. Je voulais dire simplement, excuse-moi Bernard, je voulais dire juste un mot avant que la parole te soit transmise, c'est parce que je voudrais évoquer avec Georges Forestier un autre point qui a été. Je ne vais pas répondre, simplement dire il y a beaucoup à dire sur la comparaison entre le sport et le drame, hein, la question que tu as posée, ou le théâtre, et en particulier le fait que dans toute une partie du théâtre du XXe siècle, le sport était pendant un certain temps, avant sa médiatisation télévisuelle, maintenant ça c'est plus le cas, un idéal. Je cite toujours cette formule de Brecht, davantage de bon sport. Et c'était un programme pour le théâtre. Davantage de bon sport. La clarté de la règle, la clarté des règles, le fonctionnement des équipes, l'absence d'aléas, d'aléas autres que celui qui est normé, etc. L'épure du modèle paraissait à Brecht, et la participation populaire, et l'engagement populaire, et ça paraissait à Brecht, et aussi le grand jour, etc. Tout ça paraissait à Brecht des modèles pour le théâtre. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur le fait de savoir pourquoi est-ce que c'est un élément, le fait que le théâtre soit à ce point loin de la partie de foot, et que personne ici, si passionné du théâtre qu'il soit, qu'il ait été ou qu'il aspire à redevenir, personne ici n'a pu vivre un spectacle récemment avec le degré d'intensité que nous avons vécu les tirs au but. Enfin, faut être sincère, quoi, hein, parce que il y a pas le même degré. Et puis aussi peut-être pour d'autres raisons. Je dirais, si on veut, mais excusez-moi, c'est une confidence. Je dirais que je n'ai pour ma part, alors c'est vraiment personnel, un engagement comparable à celui-là devant une dramaturgie qu'au cinéma, devant certains films d'une période très 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 restreinte de l'histoire du cinéma, en particulier du cinéma américain des années 30 et 40. Et il m'arrive vraiment d'être complètement, absolument capté, bouleversé, détruit, heureux, projeté par un... Et comme on peut. C'est vrai qu'au théâtre, ça fait un moment que ça nous arrive un peu moins, c'est tout, mais c'est la condition du théâtre, pas. Bernard ?
Exactement, on va bien revenir à un type différent, parce qu'il a été beaucoup question de la chose théâtrale par excellence, qui est le bout de boule, et du point de vue de gens qui s'intéressaient beaucoup à la théâtralité et pas du tout au football. Et moi, je suis dans une position différente, puisque je suis un supporter de base qui m'intéresse beaucoup au football, et comme un supporter de base, c'est-à-dire sans réfléchir, la seule chose qui m'intéresse, c'est que mon équipe gagne par tous les moyens possibles.
C'est laquelle
C'est pas l'équipe de France, c'est contre l'équipe de Marseille. Et donc, j'étais contre l'équipe de France, et sur le coup, un point de vue qui était à la fois différent de ta famille française et de ta famille italienne, dans le sens où, bon, il m'a semblé qu'on a parlé finalement de beaucoup d'éléments de l'affaire du football, le rapport du sujet aux autres sujets, le rapport de l'État aux États et même l'arbitre, mais il me semble qu'il y a un élément de théâtralité qui est structurant, qui est le rapport à la règle du jeu. Dans le sens où, de la même manière que chaque fois qu'on est dans le métro, c'est le métro d'en face qui est le premier. Quel que soit le coup qu'on a choisi, l'arbitre est contre, la pelouse est défavorable à son sens. Et donc le rapport de force est toujours un rapport où l'opposant est au départ dans une position de supériorité. Et donc il me semble que le rapport à la règle du jeu est l'élément de la qualité qui est structurant, dans le sens où il fonctionne sur le football de la même façon que sur l'action, sur l'intrigue, la tension entre la coulisse et la scène. Il y a souvent des zines, et puis il y a les forces cachées, c'est-à-dire la transgression de la règle qui fait partie du jeu. Et il y a une sorte de dialectique entre la règle du jeu, c'est pas jamais l'arbitre, et puis la façon dont on doit jouer, c'est-à-dire commettre des fautes pour gagner, bien sûr, puisque le but du jeu, c'est de gagner. Et bon, là aussi, j'ai eu beaucoup d'anecdotes, j'en ai deux. Une amie qui m'avait mis au défi de la passionnée de rugby et une autre amie qui m'avait mis au défi de la passionnée de football. Je suis parvenu les deux fois. La première fois, en montrant avec une cassette un match de rugby, en expliquant tu ne t'intéresses pas au rugby parce que tu regardes les mains, et ce qu'il faut regarder, c'est les pieds. Donc, je montrais en particulier pourquoi tel joueur est mal joué, parce qu'il avait piétiné trop tard tel autre joueur. Et s'il avait piétiné avant, il avait le droit. Et pour l'ami qui était réfractaire au football, je lui montrais pareil sur un avis sur l'image, je lui ai expliqué que tel défenseur avait mal joué parce qu'il avait raté son tacle sur l'attaquant. Je lui ai montré qu'en fait, il avait très bien joué, pas avec les pieds, mais avec les mains, parce qu'il y avait fracturé le bras. Sans que l'arbitre le voie, parce que l'arbitre était concentré sur le tacle et pas sur la torsion du bras. Comme vous voyez, avec les arrêts sur le bras. Alors, pour en revenir au coup de pied, en fait, ma conclusion de l'affaire, c'est qu'à un moment qui était un moment clé, comme tout le monde l'a reconnu, Materazzi a très bien joué le coup sur un joueur qui était connu pour être rapide du bout. Dès qu'on attaquait sa maman ou sa femme, ou dès qu'on tenait des propos racistes, qui était un métier récidiviste de la chose. Materazzi, qui lui-même était spécialiste du coup de boule, puisqu'il en avait mis un, qui avait occasionné un but à l'équipe de France. Donc, il me semble que là, il y a un argument technique, cynique, qui est me semble-t-il, le seul moteur de l'action de Materazzi, qui est il faut que je me débarrasse de Zidane avant les pénalties.
Mais est-ce que. Pardon. Je vais te faire la réponse exactement symétrique sur ce dernier point, sur celle que j'ai faite à Jean-Pierre Klein. Est-ce que tu n'es pas un peu italien par un certain côté? Parce que c'est exactement le discours italien, ce que tu dis là. C'est le discours italien. C'est-à-dire, il a fait ce qu'il faut faire, quoi. C'est cynique, mais c'est comme ça, il faut gagner, hein, c'est ça. T'as un Marcello qui est là, Marcello, opine du chef, fortement. Non, mais parce que tu vois, c'est pas si facile que ça de trouver un point de vue tiers. Parce que je crois que c'est un point de vue, en tout cas moi c'est ce que j'ai en partie entendu dans l'interview. Dans ce que vous dites, il y a tellement de richesses, je ne vais pas répondre à la question de l'arbitre, absolument, qui rejoint la tienne d'ailleurs, la question de l'arrêt, qu'a posé Michel Legui, et que je regrette, parce que c'est une question extrêmement importante, je trouve. Hein, c'est-à-dire, quelle est l'instance arbitrale dans cette affaire? Pas seulement techniquement ou juridiquement, mais du point de vue de la pensée. Et ça rejoint ce que tu dis sur l'arrêt, mais je ne vais pas répondre à tout, je me permets de...
D'autres questions, monsieur?
Oui, j'étais un peu intimidé par la hauteur de vue du débat théorique, mais par moi-même, supporter de base, mais la précédente intervention m'encourage à la en tant que supporter, justement, il est difficile de ne pas prendre part au débat. Et en particulier sur la question initiale qui a été lancée par le proche Jean-Baptiste Brunet, si j'ai bien noté son nom, sur la question de la personne de Zidane en tant que footballeur, et pas seulement en tant que footballeur, mais que c'est justement à travers sa personne que se fait le lien entre le foot et la question nationale. Il me semble que Zidane est avant tout un héros national, bien plus qu'un héros footballistique, en quelque sorte. Pour moi, il est évident qu'il y a un parallèle à faire avec Jeanne d'Arc, Persin et Péris, des héros nationaux de ce type. Et il faudrait remarquer que Zidane, comme ceux que j'ai nommés, ont justement gagné toutes les batailles sur la dernière. Et c'est cette idée des symboles nationaux français d'ailleurs. Hein.
Comme de Gaulle, c'est vrai.
La deuxième chose, c'est que il y a une autre un théoricien que j'aime bien, qui s'appelle Roland Barthes, qui a très peu écrit sur le sport, mais qui a écrit sur le Tour de France, qui a écrit deux paragraphes de quelques livres sur le foot. D'ailleurs, dans un texte qui est inédit dans ses œuvres complètes. Justement, bon, comme je connaissais ce texte, j'avais noté une phrase avant de venir, et je voulais vous le lire, parce qu'il me semble que c'est une simple notation, c'est pas le Barthes théoricien, c'est une notation avec la sensibilité particulière à Barthes, et il écrit cette phrase qui colle tout à fait au débat, à mon avis. Il pleut sur Angleterre, et pourtant toute l'Angleterre est dehors. Pourquoi ? Il y a football à Wembley. Dernier point, mais là c'est une anecdote et je vous laisse en tirer les conclusions. Je suis moi-même supporter de l'OM.
Il n'y a que ça ici.
et lorsque j'avais une dizaine d'années, à l'époque je vivais à Marseille et j'allais au stade de Vélodrome pour voir les matchs. Et je me souviens qu'il y avait un panneau qui annonçait les résultats. Et ce panneau, immuablement, annonçait OM visiteur. Et lorsqu'il y avait des matchs internationaux, où la France jouait, parce qu'il y avait des matchs internationaux, il y avait aussi des matchs espoirs, etc. Il est arrivé que, par extraordinaire, les matchs internationaux se passent à Marseille, il y avait invariablement France visiteur. Et je pense que c'est vraiment. On est au cœur de la problématique du football et nation. Dernier point, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris, ou alors je ne suis pas d'accord. Il me semble que dans ce que disait David Lévin, il y avait un amalgame entre État et nation. Dans la terminologie, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas nécessaire de préciser un peu, parce que ce n'est pas la même chose.
Bon, on passe à la conclusion. Hein. Peut-être. Est-ce que Denis veut dire un mot de conclusion?
Non, je ne voudrais, voudrais pas dire un mot sur de conclusion du débat, par exemple sur la dernière question que tu viens de poser, parce que c'est une question immense, hein, et sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé. Savoir ce que la nation doit à l'État. Non pas ce que l'État doit à la nation, ce qui est le schéma habituel, mais pourquoi l'État est producteur de nation. Et donc, en effet, tu as raison, j'ai escamoté cette instance. Je voulais simplement vous dire, avant qu'il soit trop tard, si c'est pas coupé, je voulais simplement vous dire un mot sur notre groupe de recherche théorique, qui est le nom d'un programme, hein, un programme auquel... Je voulais simplement vous dire ceci, c'est que très important pour nous de penser que ce n'est pas simplement une liste de conférences, hein, et qu'il y ait quelque chose comme, avec des moyens très différents, quelque chose comme une expérience de réflexion et de pensée partagée si possible, qui commence ces jours-ci. Comme l'a dit Marc Escola, ça commence sous deux formes. D'une part, des conférences, nous invitons des conférenciers, et aussi des séances de travail. Aux unes et aux autres, vous êtes les bienvenus, mais ce que je voudrais espérer, si c'est possible, et peut-être que la collaboration avec le Centre Georges Pompidou nous aide à renforcer ça, comme on a pu le voir ce soir, c'est que ça soit un lieu de, je ne sais pas quoi, comment il faut dire, sans être emphatique, enfin un lieu de recherche, d'élaboration, ouverte, hein, pas une ligne de recherche déterminée, vous l'avez vu dans la liste des sujets, mais un lieu de pensée partagée comme... il nous a semblé qu'on en manquait un peu. Alors cela suppose de la pensée, de la réflexion, ça suppose aussi beaucoup de rencontres, et donc nous cherchons à multiplier ces rencontres dans le cadre de nos séances. Nous avons choisi aussi un petit peu nos horaires en fonction de ça, pour pouvoir aller dîner ensemble après, pour tous ceux qui le souhaitent. En général, on se retrouve au restaurant grec qui est en haut de la rue de l'école de médecine, qui s'appelle l'Acropolis, l'Acropole. Et si donc il n'y a pas place, mais dans la mesure des places possibles, vous y êtes aussi bienvenus que qui que vous soyez. Parce que que nous essayons de voir s'il est possible de se croiser, de se rencontrer et de réfléchir un peu ensemble aux questions qui nous occupent. Pour ça, très important pour moi de dire que ce n'est pas simplement une liste de conférences auxquelles on peut simplement venir participer. Enfin, c'est ce que je voulais dire de mon côté.
Il y a peut-être encore des questions, Marion Massé.
Oui, sur ce point, je vais simplement faire, je n'ai pas du tout de commentaire particulier à produire sur ce que vous dites, mais je vais me permettre quand même de noter quelque chose que j'ai soigneusement laissé de côté jusqu'à maintenant, c'est que nation pour nation, il est parfaitement clair que, alors c'est un Français qui parle, hein, il est parfaitement clair que le type d'identification, c'est une question que j'ai très peu abordée, j'ai essayé d'aborder des questions de règles formelles. Et le type d'identification que nous propose l'équipe de France est très singulier et très dans la lignée de ce que nous disions. On ne peut pas là maintenant ignorer le fait que l'équipe de France ait été composée en grande majorité de Noirs, en grande majorité de gens qui sont assurément français, mais qui proposent une image de la France extrêmement différente. Il est même de l'image du particularisme national. C'était particulièrement criant dans certains matchs. Hein, et je me souviens d'avoir entendu, je ne vais pas les citer, des gens choisir l'équipe de France, en quelque sorte, même pas comme parfois il n'était pas français, à cause de ça. C'est-à-dire une certaine idée d'un certain type d'universalité proposée, tu vois, la France comme étant le pays le plus africain qui soit, ou le plus tiers-mondiste, ou le plus antillais, ou le plus, tu vois, qui soit, proposé comme ça. Et ça a joué à fond, par exemple, ce schème au moment de 98. Ça a joué à fond dans la relance nationale, alors qu'on aurait pu croire, peu de temps avant, peu de temps après parfois, que toute une partie de la jeunesse en particulier se considérait complètement quitte de l'idée nationale, l'idée française, n'avait rien à en faire. D'un coup, on a vu des gens se peindre en bleu, blanc, rouge, etc. C'était pas parce qu'on leur avait... c'était aussi, entre autres, parce que l'embrayeur avait fonctionné avec ce matériau identificatoire-là. Donc c'est encore une espèce d'idée un peu... un peu moral comme ça, qui s'avance avec une idée d'universalisation. Je ne crois pas que ça doit nous masquer, moi je me sens très, très proche de ça, enfin, ça me convient, ça me plaît beaucoup. Et Zidane, par exemple, les Zidane, je veux dire, du point de vue de la typologie du français, du pur français, c'est pas tout à fait l'abbé Pierre, c'est pas exactement la même idée de la France, si on veut, hein. C'est-à-dire c'est quand même une idée singulière aussi, très intéressante à de nombreux égards. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que ceci ne doit pas nous masquer alors là, c'est peut-être là que la théorie peut-être peut nous être utile, c'est pas pour dire qu'on doit s'en tenir quitte, les ressorts de fonctionnement formel, peut-être profond, qui mettent ça en jeu, quoi. Mettre ça en action.
Est-ce qu'il y a une hypothèse sur le fait qu'un des rares continents à ne pas entrer dans la compétition mondiale s'agissant de football, ce sont les États-Unis ? Est-ce qu'il y a un lien entre cet état de fait et ton hypothèse ?
Je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Sans doute, mais je ne sais pas.
Peut-être une question de croyance dans l'existence d'un empire mondial.
Ah, peut-être.
Je t'ai suivi pas à pas. Il y a un point avant le point d'indécision auquel je souscrirais volontiers, mais il y a un point par lequel tu es passé que je n'ai pas tout à fait compris. Quel lien poses-tu entre la compétition nationale du foot et la compétition des États? Tu as une formule en disant si la compétition nationale du foot est l'image, je crois, de la compétition des États, alors nous devons comprendre que la partie n'est pas jouée d'avance.
Alors ça, je vais dire un truc sur la théorie là. Je vais pas dire un truc sur le foot. Ta clairvoyance est absolument redoutable. C'est le point forcé du discours que tu mets là. Il y a pas, je l'ai pas produit cette articulation là, et non pas parce que je l'ai en réserve, mais parce que je l'ai pas. Comment ça marche? Ça marche de la façon suivante, mais c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec la théorie. On produit déductivement, on articule, on organise un discours. Mais il y a des moments où la théorie, ce sont aussi les forçages. Et là, c'est évident que c'en est un. C'est-à-dire, j'ai sauté par-dessus la question, en essayant de sauter discrètement, mais elle sera assez discrètement pour un regard comme le tien. C'est-à-dire, non, c'est vrai, je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que j'ai tellement proposé ici, dans la partie finale, d'hypothèses qui sont un peu nouvelles pour moi, que je suis loin d'être capable de les articuler ensemble. D'ailleurs, c'est curieux parce que le programme théorique de la soirée, pour moi, était il y a ça, alors la dramaturgie et la politique, par exemple, ou le football et le national, ou bien voilà, un versant de mon activité, il y a ça et il y a ça, je les pose côte à côte et je cherche le lien. Mais je n'ai pas exposé un lien dont je disposais préalablement. Je l'ai cherché pour ce soir. Alors, dans d'autres circonstances, je le cherche aussi avec d'autres instruments. Mais là, je l'ai vraiment cherché pour ce soir. Donc là, c'était un passage absolument forcé.
Non, mais ça engage les conclusions. Parce qu'on peut aussi soutenir la thèse que tout est fait pour nous persuader que cette compétition nationale du football a un sens, et un sens, disons, d'ouverture, de libération, etc. Pour dire que c'est produit pour ça aussi. On peut avoir une lecture plus pessimiste. Mais j'aimerais souscrire à ta conclusion très, très, très optimiste. D'autres.
On va s'arrêter là parce qu'il faut aller manger.
Il faut peut-être. Oui, monsieur, oui, je sentais bien.
Quand on est dans une grande ville, j'ai pas vu le championnat du monde à Paris, j'ai vu à Bruxelles. Et là, il y a beaucoup de Français, comme il y a beaucoup d'Italiens, comme il y a beaucoup de Portugais. Et quand on voit l'impact du match sur ces différents groupes, je trouverais qu'au contraire, contrairement à ce que tu dis, chez les Italiens, il y a une grande facilité d'extérioriser, de soutenir cette équipe. Chez les Français, on ne les a pas entendus. C'est seulement en finale qu'il arrivait à la rue. Donc je trouvais au contraire, et je dis ça en tant que néerlandais, en Hollande, c'est un certain nationalisme qui se joue, ou une certaine renaissance, si tu veux, nationale, mais sur un mode très limité. C'est la mode qui. Et c'est ça que je n'ai pas, enfin, je n'ai pas entendu tout ton discours, je ne sais pas, mais il y a de différents modes là-dedans, dans cette façon que les supporters ont de soutenir leurs équipes. Et le côté. C'est comme si, pour les Français, c'est quand même drôle. C'est comme si c'est comme s'ils voulaient imiter les autres. Mais il n'y a pas, ça ne va pas de plein cœur. Ça ne va pas d'une manière très spontanée. Donc, une espèce de voyez, je dis ludique, parce qu'il y a une sorte de mise en scène d'une manière un peu ridicule de l'identité nationale.
Mais je crois qu'on est en train d'apprendre, en fait. Je crois. que c'est pas totalement ancré dans la culture depuis.
Je sais que c'est difficile, et typique, je crois, pour peut-être la différence entre nations
Mais est-ce que je peux revenir encore un instant à ce que j'ai dit à Marielle Massé tout à l'heure? C'est que, alors je ne vais pas prendre le temps de ça, j'ai vraiment écrit un long ouvrage pour l'argumenter, mais c'est que le nationalisme français se présente, et depuis la Révolution française, comme un nationalisme de second degré. C'est-à-dire que ce n'est pas un nationalisme d'adhésion de premier degré avec une image nationale. Jamais. Ça ne l'a jamais été, en tout cas depuis la Révolution française, c'est-à-dire à peu près depuis que la nation prend le sens moderne. Et chaque fois que ça a été tenté sous cette forme, que ce soit sous le péténisme ou sous le boulangisme, par exemple, sont des exemples qu'on ça a avorté. Les grandes réussites du nationalisme français se sont présentées, et encore une fois, excusez-moi, ce n'est pas pour y souscrire, pour y adhérer, hein, mais par exemple comme la conquête napoléonienne, dont le discours n'était pas un discours de la domination française. C'était un discours qui consistait à porter une idée universelle. Je ne dis pas que la pratique n'était pas une pratique de domination française. Or, les nationalismes européens, le cas des Pays-Bas est extrêmement différent. Hein, tu me permettras un instant de le laisser en suspens. Mais les grands nationalismes européens, qu'il s'agisse du nationalisme allemand, mais aussi du nationalisme russe, aussi du nationalisme espagnol, hein, et pour l'Italie, c'est encore un phénomène très différent, un peu plus tardif, se sont constitués ou reconstitués ou remotivés ou réargumentés contre le discours universaliste de la Révolution française. Et tu le sais très bien. C'est-à-dire que, c'est particulièrement clair en Allemagne, mais on pourrait argumenter quelque chose d'assez voisin avec la Russie et avec l'Espagne. Ils se sont argumentés, le nationalisme allemand s'argumente en disant nous en avons assez de l'abstraction française. De l'abstraction universaliste française. C'est écrit en toutes lettres, enfin à ma connaissance, Bernard, j'espère que tu ne me contestes pas, mais c'est écrit dans les discours à la nation française, à la nation allemande de Fichte, c'est écrit chez Hoffmann, c'est écrit chez une grande partie des romantiques allemands littéraires ou théoriciens, il y en a qui échappent, mais qui ne sont pas justement tous. C'est écrit chez Dostoïevski, c'est écrit dans une partie de la littérature espagnole du XIXe siècle. C'est-à-dire, la France veut nous imposer son idée abstraite de l'égalité humaine universelle. Et nous revendiquons, contre cette idée abstraite de l'égalité humaine, nous revendiquons une certaine singularité charnelle, inscrite dans une image, inscrite dans des corps de pays, dans des corps de contrées, etc. Alors, tout ça a été déplacé par le XXe siècle, son histoire, etc. Et encore une fois, comme toujours, ce que je dis là est beaucoup trop simpliste, hein, bien sûr. Mais nous avons un certain héritage de ça. Et cet héritage, c'est qu'en effet, on ne voit pas, moi j'ai par exemple regardé particulièrement dans la littérature, hein, le signifiant Deutsch, hein, est infiniment plus présent dans la littérature allemande que le signifiant France dans la littérature française, ou dans le cinéma. Je peux le trouver dans le cinéma. Dans le cinéma, c'est vrai aussi par rapport au cinéma américain. C'est vrai aussi par rapport au cinéma espagnol ou russe, ô combien. Tu vois ? Et en France, même lorsqu'on pense que c'est un cinéma qui valorise une certaine idée de la France, qui est un cinéma très typiquement français, comme par exemple le cinéma de l'entre-deux-guerres ou de l'immédiat après-guerre, mais en particulier le cinéma français, le réalisme poétique, etc., de l'entre-deux-guerres, c'est un cinéma qui joue très peu avec le signifiant France. Très, très, très peu. On propose très peu à la France de s'identifier avec la particularité de ce que c'est que d'être... C'est souvent, par exemple... je ne vais pas rentrer dans le détail pour dire ça. C'est pour dire qu'au fond, le phénomène que tu décris, même s'il est comme ça, empirique, et ne me paraît pas inexplicable. Par exemple, le fait que l'entraînement à l'équipe de France soit arrivé, bon, à cause de l'histoire peut-être de chacune de ces compétitions, mais aussi pour d'autres raisons, soit arrivé très progressivement, comme tu l'as dit, hein, soit arrivé très progressivement et que peu à peu on ait été absorbé. Stigler l'a raconté tout à l'heure, mais moi ça m'est arrivé physiquement, je peux raconter, je vais pas le faire ici, dans quelles conditions j'ai été happé peu à peu par la compétition et par le, en 98 et en 2006, après avoir voulu pendant un premier temps en être loin. Je crois que c'est une donnée. Simplement, il ne faut pas rester, se laisser abuser par le fait que, si tu veux, nous n'allons jamais dire, il faut être français parce que la baguette, parce que le béret, ou parce que la Bretagne, c'est pas nous qui avons cette idée de la France. On dira, il faut être français parce que voilà. avec, parce que Zidane, parce que l'idée morale, parce que le coup de boule c'est aussi une victoire, parce que, tu vois, ou parce que nous sommes l'équipe la plus mondiale, enfin, parce qu'ils sont tous noirs, parce que, enfin voilà, c'est ça la France, etc. Ben, tu vois, on va tous dire ça, on va dire qu'il va être français parce que vivent les Cévennes. Enfin, ça va pas marcher comme ça, ça marche jamais comme ça, tu vois. Ça a marché deux secondes, tu vois, on a dit que c'était la réussite de l'affiche de Mitterrand, mais c'était très, très fugitif et très, très passager. Le discours est un... Alors c'est intéressant du point de vue du destin des nations et du destin de la nôtre, entre autres. Mais je crois qu'il ne faut pas se cacher, pas... je ne veux dire que tous les discours sont équivalents, mais il ne faut pas se cacher que c'est quand même un discours national. Non, c'est... Excusez-moi, là, je vais commencer à me répéter.
Est-ce d'autres réactions ou d'autres interventions que quelqu'un a un club à supporter?
Mais si, je m'excuse, mais il faut qu'on fasse attention parce que c'est... D'accord. Il faut faire attention à l'heure, hein, parce que sinon on a promis qu'on faisait 7-9. Hein, bon.
Le problème, seulement il me semble, si j'ai bien entendu la portée de ton discours, en mettant en parallèle Foucault et la question de nationalité, ça se passe maintenant. Donc ce qui change, c'est ce qui donne, ce qui change, la donne, c'est qu'il était. De ce fait-là aussi, le cadre théorique, c'est que la France est en face d'une universalité. C'est la globalisation, ou ce que tu appelles le capital. Et c'est là que ça, c'est ça qui fait.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Mmh. Tu as raison, ouais. C'est vrai, c'est juste. Ouais.
Il y a réellement une universalité, et il faut donc se situer par rapport.
Alors, permets-moi de dire rapidement que globalement, je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans ton schéma, mais que je récuse absolument l'idée que le développement capitaliste est universalisant. Il l'est en partie, il a créé les conditions, au sens où Marx le dit, mais je crois qu'il est aussi particularisant, spécifiant, différenciant qu'universalisant. Je crois qu'il ne l'est pas. Je crois qu'il cherche à nous convaincre qu'il l'est, mais je crois qu'il ne l'est pas. Je crois qu'à certains égards, il l'est, mais qu'il ne l'est pas. Sur la question de la différence des revenus, sur la question de la différence d'accès aux circulations des biens et des choses, sur la question on pourrait en parler. Je crois qu'il n'est pas vrai, il ne faut pas accepter ce que le capitalisme nous dit, qu'il produit l'universalisation. Il produit une espèce de scène commune, hein, de scènes communes où les différences vont parfois se jouer avec une extrême dureté. Mais c'est une scène commune. L'universalisation, elle reste à produire. Et c'est pour ça que je veux dire, nous n'avons pas le droit de nous laisser voler le beau mot d'universel. Voilà, c'est ce que je veux dire.
On arrête là, c'est une très belle formule de finale. Merci.